Les routiers sont toujours aussi sympas.
Le replay.
Et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir, 21h, c'est le début de votre émission. Les routiers sont toujours aussi sympas, une émission ouverte à tous, destinée à mieux vous faire connaître le métier de conducteur routier. Sebamax est en séminaire en ce début de semaine. Vous vous demandez pourquoi vous n'entendez pas une voix masculine. J'ai donc le plaisir de le remplacer ce soir, demain soir et mercredi. Vous retrouverez Thibaut Dinouel. Ce lundi, un beau programme. On va parler du Salon international du transport et de la logistique. Le SITL qui se tient à partir de demain et jusqu'à jeudi en région parisienne à Villepinte. Peut-être l'occasion de vous donner envie d'y faire un tour. J'ai aussi deux copilotes avec moi ce soir. J'ai nommé Marielle Nougaret. Bonsoir Marielle.
Bonsoir Florence, bonsoir à tous. Léo aussi également du côté du Sud-Est. Je suis ravie de vous retrouver.
Eh oui, bonsoir. Bonsoir Léo Labica du côté du Sud-Est.
Bonsoir à toutes et à tous.
Allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, place à la météo. Ce soir dans votre émission, on parle du SITL. Vous vous demandez peut-être ce que c'est, le Salon international du transport et de la logistique. Il se tient à partir de demain, du 19 au 21 mars à Villepinte, au nord de Paris, en Seine-Saint-Denis. Un point de rencontre pour l'ensemble des acteurs français et internationaux de l'industrie du transport et de la logistique. 24 000 participants, 485 exposants, 110 conférences et 9 secteurs représentés qui vont bien sûr du transport et de la logistique à l'emballage et au conditionnement, aux infrastructures, en passant par l'immobilier et les énergies alternatives. C'est un bon moyen donc de prendre le pouls du secteur avec un thème cette année, les voies du changement. Au cœur des échanges cette semaine, le transport multimodal. On aura donc l'occasion d'en parler avec nos invités. Ils seront quatre. Dans quelques minutes, je vais recevoir Laurence Gaborio, l'organisatrice du salon, qui va nous parler des tendances cette année et vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Aux alentours de 21h30, on recevra Éric Bosquet, le directeur commercial de Rhenus Partnership France, une branche du groupe Rhenus spécialisée dans le transport fluvial. Et puis dans la deuxième heure, on fera le point sur les enjeux du transport multimodal avec Aurélien Barbé, le délégué général du groupement national de transport combiné. On va aussi évoquer une source de transport propre, le vélo. Et oui, les vélos cargo sont de plus en plus utilisés dans le transport multimodal pour le dernier kilomètre. Je serai en ligne avec Alex Jacquelin, le fondateur d'une start-up de vélo cargo qui s'appelle Pélican. Vous avez le programme. Bienvenue à tous. On va écouter un petit peu de musique pour démarrer avec Coldplay. Vous êtes bien dans votre émission. Les routiers sont toujours aussi sympas. Ce soir, on parle du Salon international du transport et de la logistique avec au cœur des échanges le transport multimodal. N'hésitez pas à réagir à notre thématique. J'ai déjà eu un message tout à l'heure de Yannick. Quelle solution pour quel transport selon vous? Est-ce que vous travaillez pour une entreprise qui fait du multimodal, fluvial, ferré? Racontez-moi. N'oubliez pas également de voter pour votre sondage du soir. On vous pose la question. Aimeriez-vous être conducteur du dernier kilomètre? Pour voter, c'est simple. Vous allez sur notre page internet radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt, bien sûr, et vous cliquez sur le bandeau sondage du soir. Je donnerai le résultat en fin d'émission.
Les routiers sont toujours aussi sympas. L'invité.
Allez, il est temps de recevoir notre première invitée. Bonsoir Laurence Gaborio.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes directrice de la division transport et logistique et supply chains au sein de l'entreprise RX Global qui organise donc le SITL, le salon du transport international et de la logistique. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter ce salon? Depuis combien de temps il existe d'ailleurs ce salon?
Alors ce salon est un vieux salon en fait. On attaque la 41e édition. On a fait une belle fête l'année. Oui, voilà. Et c'est assez rare hein, d'avoir des événements qui sont aussi vieux. Alors on va dire que 40 ans, c'est rien à l'échelle.
Oui, c'est jeune quand même, 40 ans.
C'est très très jeune. Exactement. C'est très jeune à l'échelle d'un homme. En revanche, à l'échelle d'un événement, avoir passé toutes les turbulences qu'il peut y avoir dans l'événementiel, oui, c'est bien. Et là, on attaque la 40e demain matin. On ouvre la 41e édition.
Et alors, combien il y a d'exposants cette année? Est-ce que c'est un chiffre qui reste stable? Est-ce qu'il y en a plus que d'habitude? Dites-nous un peu.
Alors, nous sommes à 530 ou 533 exposants. D'accord. Parce que je crois qu'il y a deux jours, il y a eu encore des personnes qui souhaitent s'exposer. Donc là, c'est vraiment des très gros retardataires. C'est stable. C'est un secteur qui, malgré tout, évolue. Donc, il y a quand même pas mal de rachats. Et le dernier, celui qui a fait le plus de bruit, c'est le dernier rachat fait par CMA-TGM.
Ah oui.
Et c'est Valogistique et Bolloré qui ont fusionné.
Oui, c'est ça. CMA-TGM, tout à fait. C'est quoi le thème ? Alors, je l'ai un peu révélé, j'ai un peu spolié. J'ai déjà dit le thème, mais voilà. Redites-nous quel est le thème cette année et pourquoi ce thème ? On va vite comprendre alors, pourquoi.
Oui, voilà. La ligne directrice de l'édition de 24, mais 25-26, on a fait le choix de métamorphose et pour l'édition 24, ce sera les bois du changement.
D'accord.
Et pourquoi ça ? Parce qu'en effet, on va dire que le terme de métamorphose est un mot fort, puissant. Quand on regarde la définition dans le littré ou le dictionnaire, c'est vraiment un grand changement d'un niveau très élevé.
Oui.
Parce que, en fait, cette métamorphose du monde actuel, c'est le reflet en fait, de ce que vit ce secteur. Je crois que, vous savez, ça fait 25 ans que je suis dans l'événementiel, j'ai fait plein de secteurs.
Oui.
Je pense que c'est bien celui-ci, du transport et de la logistique, qui est autant touché.
Par la métamorphose, il y a autant d'enjeux dans les prochaines années, quoi.
C'est exactement ça. Il connaît une mutation sans précédent de l'ensemble de sa chaîne de valeur, quelle qu'elle soit. Hein. Ils ont des enjeux environnementaux, réglementaires, digitaux et d'attractivité. Donc il y a des vrais enjeux. Et donc ce salon, on a fait le choix de dire les voies du changement, la métamorphose, pour essayer d'aider toute cette filière à se transformer. Et le salon doit apporter des solutions pour gagner en résilience dans leur activité, pour répondre à toutes leurs préoccupations et leur donner des clés pratiques. Parce qu'encore une fois, je pense que le but d'un salon, c'est d'apporter de la perspective, de la prospective, de tous les éléments en lien avec la réglementation, mais également donner des solutions pratiques. Et les 530 exposants vont apporter des solutions pour aider à la transformation en profondeur de cette industrie.
On va en parler. Laurence Gaborio, vous restez bien sûr avec nous. On continue de parler du Salon international du transport et de la logistique juste après l'infotrafic. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez voter pour notre sondage du soir. N'hésitez pas. Aimeriez-vous être conducteur du dernier kilomètre pour répondre oui ou non ? Rendez-vous sur notre site internet radio177.fr. Lorsque vous êtes à l'arrêt, bien sûr, pas de téléphone au volant, vous cliquez sur le bandeau sondage du soir. On va en parler justement du dernier kilomètre. Vous pouvez aussi réagir à la thématique de l'émission en nous envoyant vos messages que je reçois directement dans ce studio. Vous cliquez sur la bulle bleue Messenger. 21h15, il est temps de refaire un point sur l'infotrafic. Et je suis toujours en compagnie de Laurence Gaborio, organisatrice du SITL, le Salon international du transport et de la logistique. Alors avant l'infotrafic, vous nous avez parlé du thème du salon de cette année, les voies du changement, V-O-I-E-S, bien sûr, les voies. On imagine que le secteur, vous nous avez dit, que c'est un des secteurs qui bouge le plus, qui sera amené à bouger le plus, le secteur du transport et de la logistique dans les prochaines années. On imagine que le secteur est aussi en pleine mutation pour trouver des solutions pour décarboner la route. Elle passe par quoi, par exemple, ces solutions, Laurence Gaborio ?
Alors, il y a plein de solutions et il y aura énormément de conférences qui vont porter sur la décarbonation et donc pour les routiers.
Oui.
Alors, beaucoup de sujets, à la fois des carburants alternatifs avec France Hydrogène, tous les véhicules électriques, mais également avec France Biogaz. Et il y aura une conférence où il y aura l'ADEME, en fait, présentera une note sur les avantages de chaque solution. Donc, ça, c'est intéressant. Si on a des doutes, si on se pose des questions, pourquoi les coûts, donc l'ADEME présentera les différentes solutions possibles, mais il y aura d'autres conférences et notamment une conférence où toutes les initiatives qui ont été faites par le groupe Astre.
D'accord.
Et des sujets de co-construction et de on va dire de réflexion ou d'intelligence collective.
Encore une fois, c'est-à-dire le groupe Astre, Laurence Gaborio, qu'est-ce que c'est le groupe Astre ?
C'est un gros groupement de transporteurs que je salue avec le groupement Evolutrans qui est exposant sur le salon également.
D'accord.
Ces groupes vont présenter Evolutrans sur leur stand de belles nouveautés. Et puis il y a une conférence qui est faite par le groupe Astre. Donc
d'accord.
Entre l'hydrogène qui n'est pas encore en mesure de présenter, on va dire, des camions à l'hydrogène, mais en tout cas ils sont en gros travail pour le futur. Donc il y a pas mal de solutions alternatives à la décarbonation, mais il n'y a pas que le carburant alternatif. Il y aura une présentation qui va être faite, notamment une expérimentation, mais de Vinci. Donc on est sur,
oui, sur l'autoroute A10.
Exactement, sur l'autoroute A10. Et là, je suis ravie de pouvoir le présenter. Je trouve que c'est une très, très belle initiative. C'est pour la recharge électrique des poids lourds. Cette expérimentation a été menée sur la portion de la 10, non loin de Saint-Arnoult-en-Yvelines. Et des poids lourds électriques pourront se recharger en roulant sur l'autoroute, grâce aux technologies de l'induction et du rail conductif. Donc, c'est deux technologies. Il y en a une qui est plutôt allemande et l'autre, française, mais on peut imaginer que c'est un corridor électrique qui va permettre aux poids lourds de se recharger en roulant.
C'est dingue, ça.
Oui, et c'est pas de la science-fiction, hein. oui. C'est l'autoroute de demain, et ouais. Les poids lourds électriques pourront prochainement se recharger, donc non loin de la barrière de Saint-Arnoult. Et c'est un consortium qui est mené par Vinci Autoroute et qui expérimente en conditions réelles. Il y a déjà eu des essais sur deux tronçons test de 2 km, je crois, deux solutions donc de recharge dynamique pour les poids lourds. Et là, je vous disais. Repose sur la technologie par induction et l'autre sur la technologie rail conducteur. Et c'est des solutions de recharge dynamique, innovante, permettant de réduire la taille des batteries des poids lourds, puisque plus c'est gros, plus on a besoin de place pour tenir, pour mettre ces batteries dans des camions. Donc ça veut dire que là, grâce à cette induction, avec ces solutions, on diminuera la taille des batteries. On essaiera d'atténuer les contraintes liées à leur autonomie et le besoin de recharge régulière. Parce que, autant un camion va faire je ne sais pas combien de kilomètres en fonction de sa capacité, avec une batterie, elle est beaucoup diminuée. Donc là, avec cette induction, ils s'arrêteront moins souvent pour recharger. Donc ça, c'est un sujet, je trouve, qui est.
C'est intéressant.
Exactement. C'est le premier au monde de ce genre sur autoroute. Et il a vraiment pour objectif de permettre aux poids lourds électriques, ainsi qu'à d'autres véhicules électriques, parce qu'on parle de poids lourds, mais cet exercice-là servira aux autocars, je crois, les véhicules utilitaires et les voitures particulières. Donc c'est un essai plus large, mais il est fait, je crois, au départ, il est fait particulièrement pour les routiers, les poids lourds. Et donc on va expérimenter des recharges dynamiques par induction et par rail. Alors il y a des vrais sujets, parce que rail, s'il y a de l'eau, quand il y a des motos, ça peut glisser, donc il y a plein de tests qui sont faits, c'est assez dangereux. Oui, non, enfin, en tout cas il y a beaucoup de tests qui sont faits et je crois que le budget de ce projet, c'est un budget de ce projet qui est de l'ordre de 26 millions d'euros, je crois avoir lu, et ça va s'étaler sur 3 ans.
D'accord.
Donc c'est un très beau projet que je trouve assez intéressant et qui sera financé par l'État dans le cadre du plan France 2030. Et en parlant de France 2030, cette organisation sera présente sur SITL.
D'accord. Dans les conférences organisées, un des enjeux aussi, c'est le transport multimodal à l'avenir. Privilégier le plus possible différents modes de transport en combinant train, bateau, camion. Vous allez aussi évoquer dans les conférences organisées, il y a un thème sur les corridors de transport en Europe qui devrait jouer un rôle important pour réduire l'empreinte carbone de la logistique européenne, c'est ça ?
Exactement ça. Donc, les corridors de transport, en fait, qui présentent un projet, une vision ambitieuse pour l'avenir de l'Europe.
Oui.
Ça n'est pas encore fait, mais c'est en train de se mettre en place. Et c'est surtout pour relier de manière efficace et durable toutes les régions du continent, et
d'accord,
à commencer par l'Europe. Et on doit favoriser la circulation des biens. Et il y a un gros travail qui est fait avec, par exemple, l'axe Seine-Nord, mais pas que. Ça met l'accent sur tous les modes de transport plus écologiques, et en effet on utilise le rail et le transport fluvial qui contribue à réduire l'empreinte carbone de la logistique européenne.
On aura l'occasion d'ailleurs de reparler dans cette émission du transport fluvial. Il y a aussi un espace attractivité dans le salon. Est-ce que le secteur a toujours autant de mal à recruter, Laurence Gaborio?
Oui, il a encore du mal à oui, recruter, mais je pense que ça va de mieux en mieux, et le Covid a aidé et a mis en lumière le travail qui est fait par ce secteur et cette filière, que ce soit le transport et la logistique. Il y a encore des soucis. Il y a aussi un autre sujet, c'est l'arrivée des JOP, où il y a énormément de...
Oui, l'arrivée des Jeux Olympiques, gros sujet.
Exactement.
Ouais.
Les Jeux Olympiques, donc il y a un gros recrutement, beaucoup de recrutement qui est fait pour les JOP, mais aussi c'est cette fierté de travailler et de se dire qu'ils vont organiser, vous travailler pour un méga événement. Donc oui, on arrive à mieux recruter, mais c'est encore en effet une filière qui a besoin d'avoir de nouvelles recrues, attirer de nouveaux talents. C'est un secteur que je trouve fabuleux. Il a au moins cette possibilité de débuter de sa carrière et puis d'avoir une vraie évolution sociale,
ouais,
dans n'importe quel secteur, que ce soit côté entrepôt, chez un transporteur. Il y a vraiment des possibilités digitales, environnementales, RSE. Ouais. Il y a des possibilités partout. Et aujourd'hui, on va dire qu'un transporteur, il va arriver dans son camion et va pas avoir d'évolution. Eh bien non. Un transporteur aujourd'hui qui débute, un routier qui débute dans une société, en un établissement de transport, il aura une évolution, notamment avec l'arrivée de l'électrique. Il y a plein d'innovations, et vous verrez, enfin, dans le cadre des conférences, que ce soit, il y a un consortium avec Seva, Engie, Sanef, qui travaille en fait une sorte d'alliance d'échange des transports européens, et qui travaille sur des nouvelles, pas techniques, des nouveaux systèmes de gérer le transport routier. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui arrive, qui est embauché, dans 10 ans ou dans 15 ans, il ne fera plus le même métier.
Laurence, peut-être pour terminer, vous l'avez un petit peu évoqué, les Jeux Olympiques de Paris, il y aura une conférence d'ailleurs qui sera consacrée à la logistique pour ces JO. Comment le secteur se prépare? C'est quand même un gros événement, des gros enjeux qui arrivent dans les prochains mois.
Exactement. Peut-être qu'avant de parler des JOP, j'aurais aimé juste dire l'importance du multimodal, enfin, et du oui, report modal. En fait, les infrastructures, quels que soient les ports, se mettent en ordre de marche pour que également tout le report modal se fasse, que ce soit ferroviaire, fluvial, jusqu'au routier, jusqu'au cyclo. Au cyclo-cargo, vélo-cargo, pour pouvoir livrer en fait les différents colis chez les personnes. En effet, les Jeux Olympiques, c'est le méga événement, et c'est l'occasion pour cette filière de montrer l'excellence, à commencer par le travail qui a été réalisé depuis presque 2 ans de Seva Logistique, qui achemine tout le matériel et les équipements des athlètes du monde entier, enfin d'une centaine de pays. Donc ils ont récupéré les équipements, et ils sont en train de récupérer encore les équipements des différents pays pour les amener sur les différents sites. Je crois qu'il y a 25 sites dont la plupart sont à Paris, mais pas que. Et puis maritime, ferroviaire, fluvial. Et puis il y a également toute la gestion de la logistique du quotidien, puisque Paris est une grande ville, et c'est une ville très très concentrée, donc il va falloir être capable de livrer à la fois les hôpitaux, les hôtels, les pharmacies, enfin tout le commerce pendant les JOP. Donc il va y avoir une application, les livreurs pourront, il y a tout un travail qui est fait avec l'État, avec la ville de Paris et les différents syndicats et fédérations, pour être capable d'avoir une continuité d'une vie à peu près normale dans le cadre des JOP.
Merci beaucoup Laurence Gaborio, donc organisatrice, on le rappelle, du SITL, le Salon International du Transport et de la Logistique, qui se tient donc au Parc des Expositions à Villepinte, au nord de Paris, à partir de demain jusqu'à jeudi. J'espère qu'on aura réussi à vous mettre l'eau à la bouche. Un dernier mot, peut-être une dédicace, Laurence Gaborio, n'hésitez pas.
Je suis ravie en fait d'être à votre émission parce que c'est une émission culte. Alors je ne sais pas depuis combien de temps elle existe, mais enfin, en tout cas moi je crois que j'ai été baignée par ça et je suis ravie de parler aux routiers et toutes les voitures.
C'était une émission lancée par Max Meynier, c'est vrai, il y a longtemps qu'on a repris, il y a 4 ans effectivement, sur cette antenne.
Bonne vie à cette émission et j'espère que certains routiers qui nous écoutent seront présents demain, après-demain et après-demain sur le salon à Villepinte, donc pendant 3 jours, qui devrait être une très très belle édition pour le monde des routiers.
L'invitation est lancée, un programme alléchant, vous l'avez ce programme en entier sur le site internet du salon www.sitl.eu. Très belle soirée à vous Laurence Gaborio.
Merci et très belle soirée à vous.
Au revoir. Allez, ce soir, on parle donc de ce salon. On va retrouver notre deuxième invité. Je suis un petit peu en retard. N'hésitez pas d'ici là à réagir à notre thématique. Ça fait réagir. Je viens de recevoir un message de Xavier. Il y a Sylvain également qui m'écrit. Vous pouvez aussi voter pour notre sondage. Aimeriez-vous être conducteur du dernier kilomètre? Pour m'écrire, vous le savez, pour m'écrire directement dans le studio lorsque vous êtes à l'arrêt, bien sûr, vous allez sur notre site internet radio177.fr et vous cliquez sur la bulle bleue Messenger. Pour voter pour le sondage, vous cliquez sur le bandeau sondage du soir. Allez, on va maintenant recevoir notre deuxième invité, un des exposants du salon, il s'appelle Éric Bosquet. Il est directeur commercial de Rhenus Partnership France, une branche du groupe Rhenus spécialisée dans le transport fluvial. Ça fait parler, hein, le multimodal. Je vais lire après le message de Xavier. Mais voilà, on va pouvoir en parler justement de ce transport multimodal, d'imbriquer du transport fluvial, du transport par le train, en plus du transport routier. On va donc recevoir Éric Bosquet.
Les routiers sont toujours aussi sympas. L'invité.
Et bonsoir Éric Bosquet, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir à tout le monde.
Vous êtes le directeur commercial de Rhenus Partnership France, une branche du groupe Rhenus, un des géants de la logistique. Vous êtes donc spécialisé dans le transport fluvial, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe concrètement, d'où vient la marchandise, comment vous allez la chercher et par quel fleuve vous transitez, un petit peu pour qu'on visualise bien?
Alors effectivement, aujourd'hui, notre activité, notre travail, c'est de travailler avec des clients qui ont besoin d'utiliser les bateaux pour transporter leurs marchandises.
D'accord.
Et on est présent actuellement sur les plus gros fleuves aujourd'hui qui sont navigables. C'est le Rhin, la Moselle, ouais. Dunkerque avec les canaux du Nord, les canaux de Seine de Yonne et la Saône et le Rhône.
Voilà. Et
c'est 5 agences aujourd'hui.
Et quel type de marchandises vous transportez?
Alors, on travaille essentiellement sur du vrac sec, donc plutôt des céréales, de la biomasse, des produits sidérurgiques, des minerais de fer, matériaux de construction également, et puis des colis lourds. Alors, ce qu'on appelle des colis lourds, c'est des turbines de centrales à gaz, c'est tout ce qui est exceptionnel et qui n'est pas transportable facilement par la route ou par le train.
Oui, j'allais dire, parce que pourquoi ça ne peut pas être transporté par la route ou le train? Ce sont principalement parce que ce sont des volumes un petit peu plus importants, c'est ça?
Ce sont des gros volumes, hein. Vous savez, une péniche aujourd'hui, en moyenne, c'est 2000 tonnes, donc ça représente l'équivalent de 100 poids lourds. Donc c'est des très gros volumes. Par définition, tout ce qui est très gros, on pourra l'accueillir sur des péniches qui ont des dimensions, ou en tout cas des bateaux qui ont des dimensions souvent jusqu'à 10 mètres de large et qui peuvent aller jusqu'à 100 mètres intérieurs, hein, de disponibles, voire plus, en termes de capacité.
Alors comment ça s'organise la logistique entre les différents modes de transport? Parce qu'on imagine que le bateau ne va pas jusqu'à la ville, donc vous utilisez plusieurs moyens de transport, c'est ça?
C'est ça, on s'intègre vraiment dans une chaîne logistique, on fonctionne en trouvant les meilleures solutions. On, On est organisateur de transport, c'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, on reçoit par exemple des coils, des bobines de métal qui arrivent de pays tiers, hein, d'Asie, d'Inde, et d'accord. qui arrivent par bateau de mer. On va les décharger, on va faire appel donc à un prestataire sur un port comme Rotterdam par exemple, ou Anvers.
Ouais.
On va les décharger avec des très grosses grues, hein, parce qu'une un col, ça peut faire jusqu'à 20 tonnes, 25 tonnes, 27 tonnes, donc c'est assez lourd. Ce colis va être donc déchargé sur un quai, puis rechargé sur une péniche ou un bateau pour être acheminé, par exemple, sur Strasbourg. À Strasbourg, vous avez un port qui va accueillir ce bateau, utiliser encore des moyens de manutention spécifiques pour décharger ce colis lourd, donc, et puis vous avez un camion qui va faire le dernier kilomètre en général. Ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est 15, 20, 25 kilomètres, 30 kilomètres peut-être. En tout cas, on essaie de se rapprocher au plus près du point de livraison.
Et est-ce que vous avez une nouvelle problématique avec ce dernier kilomètre? Je pense aux ZFE dans les villes. Alors vous, comme ce sont des marchandises un petit peu plus volumineuses, on imagine que vous n'allez pas jusque dans le centre-ville, mais est-ce que les ZFE compliquent un petit peu votre travail?
Il complique pas forcément notre travail, parce que notre travail c'est de livrer les industriels qui consomment des très gros volumes. Quand vous livrez 2000 tonnes de blé ou de déchets ou je ne sais quel matériau de construction, des gravats par exemple, ce genre de choses, de granulats, vous approchez donc des industriels qui sont souvent en zone industrielle.
Oui.
En périphérie des grandes villes. Donc, nous, on n'est pas impactés. Par contre, les ZFE, les communautés de communes, les décideurs publics veulent de plus en plus verdir, je dirais, leur flux entrant et sortant, et donc souhaiteraient amener la barge au plus près des lieux de consommation. Mmh. Et c'est là où il faut se gratter un peu la tête, si je puis me permettre, et trouver des solutions pour livrer des volumes souvent plus petits, donc avec des barges un petit peu plus petites, et par exemple utiliser un vélo cargo ou des véhicules électriques pour livrer. Donc il faut trouver des flux qui conviennent et qui permettent cette gestion. Et évidemment, il faut une rivière qui le permette et qui permette d'aller en centre-ville.
Éric Bosquet, vous restez avec nous. On va parler un petit peu de trafic. L'infotrafic revient et on va continuer cette discussion juste après. Et je suis toujours avec notre deuxième invité, Éric Bosquet, qui est le directeur commercial de Rhenus Partnership France, une branche du groupe Rhenus, des géants de la logistique, spécialisée dans le transport fluvial. Merci d'être encore avec nous, Éric Bosquet. On a parlé un petit peu du transport que vous faisiez, voilà, le multimodal, comment ça se passait concrètement. Quelle part représente le transport fluvial et maritime dans le transport français de marchandises? À peu près.
Alors, le transport, c'est sur 100% des activités, 50% sont faits par les transporteurs routiers français,
d'accord.
qui certains nous écoutent ce soir. un peu moins de 40%, 38%, c'est plutôt des transports faits par des pavillons étrangers, donc c'est de la marchandise qui est livrée sur le sol français ou qui est fait, en tout cas, d'un point A à un point B en France. Le ferroviaire représente à peu près 10% et le fluvial 2%. Donc le fluvial est le parent pauvre en termes de volume pour plein de raisons. On en a expliqué, on a expliqué certaines raisons juste avant. Et puis il faut se trouver évidemment au bord d'un fleuve pour pouvoir en profiter. Et ça, c'est une contrainte technique qui est malheureusement est difficilement surmontable.
Éric Bosquet, peut-être pour terminer, quels sont, et on en a déjà évoqué quelques-uns, mais quels sont donc les avantages du transport fluvial?
Alors, demain et pendant 3 jours, on sera au Salon international du transport et de logistique. Un des avantages du transport fluvial, et je le dis à votre micro ce soir, c'est évidemment le report modal. Et quand on dit report, c'est de mettre de la marchandise qui traditionnellement roule dans les camions, puisse être transportée par voie fluviale ou par train. Puisque aujourd'hui, un des premiers avantages de ce mode de transport, c'est la réduction des émissions de CO2.
Ouais.
Tout à l'heure, je vous ai dit que pour une barge de 2000 tonnes, on pouvait donc mettre l'équivalent de 100 camions environ. Voilà, le calcul est assez simple, hein. Il n'y a qu'un seul moteur qui tourne contre 100.
Clairement.
Ça permet de désengorger les routes, hein, par définition, en tout cas les grands axes. Et ça permet d'amener la marchandise vraiment plus près des clients finaux industriels et gérer le dernier kilomètre en camion. Et puis, c'est vrai que ça limite les accidents, parce que les accidents de péniche, il y en a quand même un petit peu moins que les accidents d'autoroute. Donc c'est aussi un vrai avantage par rapport à peut-être du tout camion parfois qui peuvent être accidentogènes quoi. Voilà.
Merci beaucoup Éric Bosquet d'avoir été avec nous ce soir. Un dernier mot, peut-être une dédicace à passer, n'hésitez pas.
Pour tous les conducteurs du soir dont je fais partie puisque je roule beaucoup, mais les routiers sympas, les mariniers qui sont derrière leur bar dans leur bateau, toutes ces femmes et ces hommes qui aujourd'hui font que les marchandises peuvent rouler et que tout le monde est servi en temps et en heure dans son magasin ou en tout cas chez lui. Donc bravo à tous.
Et merci beaucoup pour ce gentil message, cette gentille dédicace et bonne soirée à vous. Au revoir.
Merci, bonne soirée.
Voilà, vous êtes toujours dans votre émission. Les routiers sont toujours aussi sympas ce soir, vous l'avez compris, on parle du Salon international du transport et de la logistique qui démarre donc demain au nord de Paris. N'hésitez pas à répondre à notre sondage du soir. Aimeriez-vous être conducteur du dernier kilomètre? Vous allez sur notre page internet radio177.fr lorsque vous êtes à l'arrêt et vous cliquez donc sur le bandeau sondage du soir. J'ai quelques messages, quelques réactions toujours. Je prends le temps de les lire. Je donnerai aussi le résultat du sondage aux alentours de 22h50. On va justement parler du dernier kilomètre avec notre quatrième invité. 21h56, on écoute un petit peu de musique tout de suite. Il y a Xavier qui m'écrit, qui me dit « Bonsoir, nous sommes routiers, pas marins ni cheminots. Qu'on laisse les gens faire leur travail et ça ira bien. Il faut privilégier les transports ferroviaires pour les voyageurs, ce qui diminuera considérablement le nombre de voitures sur les routes. Les embouteillages se forment avec les voitures et la pollution vient en grande majorité des voitures également. Pour rappel, une voiture de 1,5 tonne consomme en moyenne 5 litres au 100 km. Pour un 44 tonnes, c'est 28 litres, ce qui est proportionnellement plus faible. De plus, une rame de TGV ou TER pleine pourrait retirer combien de voitures de la route? Beaucoup plus qu'un train de camion. Le transport routier de fret est indispensable. Les transports en commun sont essentiels également. La voiture, en revanche, l'est beaucoup moins dans la plupart des cas. Si on veut faire de l'écologie et de la sécurité routière, il n'y a pas de souci, mais il faut le faire intelligemment. Merci pour ce message, Xavier. Il y a Sylvain qui me dit « Yo la Dream Team, les écolos qui ne veulent pas de camions n'ont qu'à mettre des rails partout dans les rues et des passages à niveau à tous les carrefours. Ils seront heureux d'entendre siffler le train au milieu de la nuit. » On va bien sûr reparler du transport multimodal, ça fait bien réagir. Xavier qui me réécrit « Je vais dans toute l'Europe en camion. » Si je comprends bien, on veut mettre les routiers au chômage à entendre tout ça. Alors, pas forcément, hein. Le principe c'est que ça va travailler ensemble. On va en parler notamment avec le délégué général du groupement national des transports combinés. Je pense qu'on aura un petit peu plus de billes. Il y a Xavier qui dit « Si on me paye ce que je gagne actuellement jusqu'à ma retraite, je veux bien rester à la maison. Il est hors de question que je fasse du régional. Cependant, je ne me fais pas trop de soucis. Le fluvial ne navigue pas quand les eaux sont trop hautes ou trop basses. Le rail est saturé niveau marchandises et ne suivrait pas la cadence. Moi, ce qui m'inquiète réellement, ce sont toutes ces mentalités anti-camions qui ne sont absolument pas fondées car ceux qui en parlent n'ont pas vraiment de connaissances sur le sujet. » Écoutez, on va voir ça avec nos deux invités, c'est intéressant. Peut-être que vous d'ailleurs, vous travaillez pour une société avec du multimodal et vous avez un avis un petit peu plus positif, n'hésitez pas à m'écrire, j'attends vos messages, j'attends vos témoignages. Allez, vous écoutez toujours votre émission, les routiers sont toujours aussi sympas sur le 107.7, il est 22h. Je vous rappelle que ce soir, on parle du Salon international du transport et de la logistique, le SITL, qui se tient à partir de demain jusqu'à jeudi au Parc des Expositions de Villepinte, au nord de Paris. N'hésitez pas à aller assister à quelques conférences. Toutes les infos sont à retrouver sur le site internet www.sitl.eu. On a reçu pendant cette première heure l'organisatrice du Salon, Laurence Gaborio, qui nous a rappelé sa thématique, les voies du changement, V-O-I-E-S, les voies bien sûr, avec elle on a abordé les enjeux pour la décarbonation de la route, les énergies alternatives, les problèmes de recrutement du secteur et les difficultés liées aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ensuite, avec Éric Bosquet, le directeur commercial de Rhenus Partnership France, on a évoqué le transport fluvial. Dans cette deuxième heure, on reviendra sur les enjeux du transport multimodal, qui vous fait bien réagir d'ailleurs, en recevant, après l'infotrafic de 22h15, le délégué général du groupement national des transports combinés. Notre quatrième et dernier invité est passionné de vélo. Il s'appelle Alex Jacquelin et il a fondé avec son associé Thomas une start-up de vélo cargo qui s'appelle Pélican, un secteur en pleine expansion en France pour répondre à la problématique du dernier kilomètre notamment. Vous avez donc le programme de cette deuxième heure. Bienvenue à tous. On écoute un petit peu de musique pour démarrer. On va écouter Synapson. Ce soir, on parle transport et logistique. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour notre sondage du soir. Alors, il n'y a pas... Il y a vraiment vous pouvez choisir entre oui et non, je vais y arriver. Et pour l'instant, le non l'emporte largement. On verra si ça change d'ici la fin de l'heure. Mais voilà, le sondage du soir, je vous le rappelle, on vous demande si vous aimeriez être conducteur du dernier kilomètre. Il y a Yannick tout à l'heure qui m'a envoyé un message. Alors, j'arrive pas à me reconnecter sur les messages. J'arrive pas à revoir le message de Yannick, mais qui me disait que lui, ça l'intéressait pas du tout d'être conducteur du dernier kilomètre. Donc vous pouvez aussi me dire est-ce que ça vous intéresse, est-ce que pas du tout et pourquoi, n'hésitez pas. Donc pour aller voter, lorsque vous êtes à l'arrêt, vous allez sur notre site internet radio177.fr, vous cliquez sur le bandeau sondage du soir et puis vous pouvez toujours réagir à la thématique de l'émission en nous envoyant vos messages. J'en ai déjà reçu quelques-uns qui m'arrivent donc directement dans le studio, je les vois. Vous cliquez sur la bulle bleue Messenger en allant toujours sur notre site internet radio177.fr. Vous avez la bulle bleue Messenger et vous avez le bandeau sondage du soir. On va continuer donc de parler du transport multimodal avec notre prochain invité. Il s'appelle Aurélien Barbet. Il est délégué général du GNTC, le Groupement National des Transports Combinés. On va le retrouver juste après l'infotrafic. Et je suis donc tout de suite avec notre troisième invité. Il s'appelle Aurélien Barbet. Il est délégué général du GNTC, le Groupement National des Transports Combinés. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter le GNTC ? Qu'est-ce que ça regroupe, les transports combinés ?
Oui, bien sûr. Alors le GNTC, donc on est la fédération professionnelle qui regroupe tous les acteurs du transport combiné rail-route et fleuve-route en France aujourd'hui. Donc concrètement, on représente des transporteurs routiers qui pratiquent du transport combiné, des opérateurs ferroviaires ou des opérateurs fluviaux de combiné, et d'accord, des plateformes multimodales, terminaux de combiné, donc notamment aussi des ports. Voilà. Et donc l'objectif du transport combiné, c'est vraiment de combiner des modes de transport différents, donc la route avec le ferroviaire ou la route avec le fluvial, pour avoir les avantages des deux modes quand c'est nécessaire.
On a eu des messages de routiers assez inquiets et pas forcément partisans de ce multimodal il y a quelques minutes, qui ont l'impression un petit peu que leur métier va disparaître. Le but, c'est pas ça, c'est vraiment de combiner la route et le bateau, la route et le ferroviaire, mais le but, c'est pas non plus d'éradiquer les camions de nos routes.
Ah, absolument pas, absolument pas. Nous, on n'est absolument pas contre les routiers. Au contraire, on représente des transporteurs routiers. Donc, je veux rassurer tout le monde. Et on prône vraiment la complémentarité entre les modes. Et l'objectif, c'est de dire que sur les petites et moyennes distances, évidemment, le transport routier sera toujours absolument indispensable et nécessaire et pertinent. Par contre, sur des distances plus longues, par exemple au-delà de 500 km, le ferroviaire ou le fluvial peuvent devenir intéressants, notamment du point de vue écologique et environnemental et du point de vue de la décarbonation. Et dans ce cas-là, on va combiner les modes de transport pour avoir la partie la plus longue sur la partie massifiée, donc ferroviaire ou fluviale, et puis un pré et un post-acheminement routier autour des plateformes multimodales, donc ça peut être une centaine de kilomètres par exemple autour des terminaux de combinés. Mais l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'avoir à la fois la souplesse de la route et en même temps la massification et le volet écologique décarboné du rail ou du fluvial.
Quels sont les enjeux pour vous dans les prochaines années ?
Alors les enjeux sont très importants. On a un objectif de tripler notamment l'activité du transport combiné rail-route. Donc c'est un segment de marché qui est vraiment en forte croissance et en fort développement.
Donc bien développer le ferroviaire, quoi. C'est ça.
Absolument. Développer le ferroviaire, donc ça passe notamment par vraiment améliorer le réseau ferroviaire aujourd'hui en France. améliorer la qualité de service, donc c'est-à-dire avoir des trains qui partent à l'heure, des trains qui arrivent à l'heure, et donner une qualité de service qui soit quasiment au même niveau que la route. Mmh. Et puis, c'est aussi améliorer ce qu'on appelle la capacité, donc c'est-à-dire avoir des sillons ferroviaires qui soient de bonne qualité, qui correspondent à la demande des chargeurs, à la demande des industriels, et on va avoir besoin évidemment de plus de sillons ferroviaires dans les prochaines années, c'est absolument indispensable. Donc on travaille vraiment avec le gestionnaire d'infrastructure SNCF Réseau, avec l'État, pour améliorer cette qualité, cette capacité. Et puis, il y a la question de l'infrastructure, avec notamment les plateformes multimodales. Donc on va avoir besoin dans les prochaines années de créer de nouvelles plateformes multimodales en France et de moderniser les plateformes existantes. Ça, c'est absolument indispensable parce qu'on a un réseau qui est assez vétuste malheureusement aujourd'hui.
Ouais. On a l'impression qu'en France, on a quand même du mal à développer le ferroviaire, que ce soit pour le transport de voyageurs comme pour le transport de marchandises. Comment ça se fait que pour l'instant, on ait du mal comme ça à passer un cap sur le fret ferroviaire ?
Alors, je dirais que ça dépend des années. Par exemple, en 2022, on a fait une très belle année sur le ferroviaire avec quasiment plus 10% de croissance. Oui. L'année dernière, 2023, a été très compliquée parce qu'on a eu beaucoup de grèves, malheureusement, sur le réseau. C'était notamment la réforme des retraites en début d'année. Et ça a vraiment plombé toute l'activité du ferroviaire. Mais c'était vraiment un sujet conjoncturel. Mais d'un point de vue structurel, les chargeurs sont convaincus, les transporteurs sont de plus en plus convaincus qu'il faut passer par le ferroviaire pour décarboner. Donc on y croit vraiment. Après, c'est vrai qu'il y a encore des freins, vous avez raison, et on travaille pour améliorer ces freins. Donc c'est cette fameuse qualité de service, avoir des trains qui soient à l'heure, qui partent à l'heure, qui soient au même niveau que la route là-dessus, et avoir plus d'offres de services, donc plus de terminaux sur le territoire national, avec un meilleur maillage du territoire, et un réseau qui soit de bon niveau. Voilà. Et on a besoin de travailler, je dirais aussi, sur le volet culturel, donc vraiment expliquer comment ça marche, quels sont les acteurs sur le terrain, qu'est-ce qu'ils proposent, etc. Parce que c'est encore assez mal connu, je pense, des chargeurs et des transporteurs.
Marielle, une nouvelle info trafic.
Non, ça y est, elle vient de se terminer, juste à l'instant.
Aurélien Barbet, on a un nouveau message de Xavier qui dit « Nous, en tant que routiers internationaux, c'est chômage. Il parle bien de routiers courte distance et le reste va disparaître une fois de plus. On contourne la question sur le fait que les routiers peuvent être inquiets. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à Xavier qui est assez inquiet sur l'avenir du métier de routier avec ce transport multimodal ?
Je pense que votre auditeur fait référence notamment à la pénurie de chauffeurs routiers qui existe aussi en France, c'est-à-dire qu'il y a en France et en Europe, il y a une forte pénurie de chauffeurs routiers. Nous, on y répond en disant justement les chauffeurs qui travaillent dans le transport combiné, ils vont travailler sur des petite distance autour des plateformes multimodales, ils vont rentrer chez eux le soir dormir, ils vont pas partir pour
oui, ça peut être une qualité aussi de vie.
Et donc c'est une amélioration de la qualité de vie pour les transporteurs routiers, pour les Français en tout cas qui font cette activité. Donc c'est vraiment au contraire très intéressant. Et d'un point de vue sociétal et social, nous on apporte quelque chose de plus intéressant pour les transporteurs routiers. Et puis c'est une réponse à la pénurie de chauffeurs routiers parce qu'on a besoin effectivement de moins de chauffeurs routiers peut-être sur le territoire et on répond à cette question de pénurie qui existe fortement aujourd'hui.
Léo, une nouvelle info dans le Sud ?
Nouvelle info, près de Montpellier en effet, sur l'autoroute A709, vous êtes en direction de Narbonne. Après Montpellier-Est, sortie 29, une voiture est en panne sur la bande d'arrêt d'urgence.
Mais donc Aurélien Barbet, Xavier dit que les routiers internationaux vont disparaître, n'auront plus d'utilité. Pas forcément, mais en fait, il faut quand même penser à une évolution du métier.
Alors, les routiers internationaux ne vont pas disparaître. Aujourd'hui, le transport routier, ça représente 87-88% du transport de marchandises.
Oui, quand même,
il
faut le rappeler.
Donc, je le rappelle quand même. Et le ferroviaire représente 10-11%. Donc, même si on double ou si on triple, vous voyez que les enjeux encore sont vraiment très, très forts. Donc, les routiers ne vont pas disparaître, heureusement. Donc, je veux vraiment rassurer là-dessus. Oui. Après, le métier, il va changer, il va s'adapter. Et tant mieux. Et la route fait sa mue, je dirais, sa transition écologique aujourd'hui avec des nouvelles motorisations, avec une réorganisation des flux. J'espère avec davantage de transports combinés sur le rail aussi. Et c'est tant mieux. Et c'est comme ça qu'on avancera vers une décarbonation des transports d'une manière générale.
Qu'est-ce que vous pensez des méga camions là l'Europe a autorisé donc là récemment le passage de ces méga camions en Europe pour essayer de centraliser la marchandise pour qu'il y ait moins de camions sur les routes. Est-ce que selon vous ça va aider à la décarbonation du transport? On sait que la France est un peu réticente quand même à ces méga camions.
Oui, effectivement. Alors nous sommes très réticents effectivement sur ces méga camions et sur un deuxième point qui est la généralisation du 44 tonnes. Donc c'est ouais. le fait de pouvoir traverser les frontières en Europe à 44 tonnes, alors qu'aujourd'hui c'est 40 tonnes. Effectivement, on est réticents parce que c'est un mauvais signal qui est envoyé aux ferroviaires. En fait, on nous a vendu un Green Deal européen pour décarboner, pro-ferroviaire, et en fait, le résultat, c'est de faire des camions toujours plus gros. Nous, on pense que c'est pas la solution. On pense que la solution, c'est vraiment d'essayer de développer des modes massifiés avec le ferroviaire, avec le fluvial. On aura toujours besoin de la route telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, et ça, c'est très bien. Mais développer des camions de 60 tonnes en France sur un réseau routier qui n'est pas du tout adapté à des camions de 60 tonnes. Donc vous imaginez qu'il va falloir refaire une partie du réseau routier, il va falloir refaire des ronds-points, il va falloir travailler sur la sécurité, parce qu'il y a des enjeux de sécurité qui sont très forts aujourd'hui. Nous, on pense que ce n'est pas aujourd'hui la priorité. Voilà, la priorité, c'est vraiment de regarder comment on développe davantage le ferroviaire, le transport combiné, le fluvial, avant de regarder comment on fait plus de gros camions sur le territoire national. Donc c'est vrai qu'on s'est fortement mobilisé. Il y a eu un vote au Parlement européen la semaine dernière. Oui. La partie n'est pas encore terminée. Donc il doit y avoir encore des étapes au Conseil européen et dans d'autres institutions. Donc on va suivre ça de très près, bien sûr.
Aurélien Barbet, Xavier réagit de nouveau sur cette histoire de route à l'international. Il dit si on fait de l'international, c'est que l'on ne veut pas faire de régional. Vous disiez que du coup, on aura plus besoin de chauffeurs aussi pour des petites distances. Xavier qui dit un cuisinier 3 étoiles ne va pas aller faire des hamburgers chez McDo. Ben là, c'est la proposition que l'on nous fait. Voilà, lui, il ne veut pas faire de régional et il a l'air de dire qu'il n'y aurait que cette option-là, du coup, plus d'international, mais plus du régional.
Ah ben non, au contraire. Enfin, je veux dire, nous, le transport combiné, c'est des transports longue distance. Donc, ça, au contraire, on peut faire du transport combiné, notamment pour de la longue distance, en international et en Europe. Il y a beaucoup de flux en Europe. Donc, on aura besoin en pré- et en post-acheminement routier de routiers, forcément. Mais sauf que au lieu d'avoir un trajet de 2000 km par la route, on va avoir peut-être 1500 km par le train. Et puis, en bout de chaîne, on va avoir la route. Donc, c'est une réorganisation des flux. Mais de toute manière, encore une fois, la route représente encore une très, très grande majorité des flux. Donc, ça va continuer d'être une grande majorité dans les prochaines années. Le ferroviaire va peut-être grignoter quelque part de marché, mais ça, on ne va pas révolutionner non plus le mode de transport en Europe et en France dans les 10 prochaines années. Voilà. Les choses vont se faire progressivement.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Aurélien Barbet, délégué général du GNTC, Groupement National du Transport Combiné. Peut-être un dernier mot, une dédicace à passer, n'hésitez pas.
Alors bah non, le dernier mot c'est que vraiment j'encourage tous vos auditeurs à s'intéresser à tout ce qui est la multimodalité. Je pense que c'est vraiment l'avenir du transport aujourd'hui, c'est regarder comment on combine les différents modes de transport, à la fois voyageurs d'ailleurs hein, et marchandises, parce que on a trop souvent tendance à penser que le ferroviaire par exemple c'est compliqué, ça ne marche pas, etc. Non, le ferroviaire ça marche, c'est pas forcément compliqué, il suffit de trouver les bons interlocuteurs, de travailler sur les bons flux. Et on est capable de trouver des solutions qui soient vraiment efficaces aujourd'hui.
Eh ben merci beaucoup. Ce sera donc le mot de la fin. Très belle soirée. Au revoir.
Merci. Au revoir. Bonne soirée.
Allez, 22h30, c'est très précis. On passe tout de suite au trafic. On va maintenant recevoir notre quatrième et dernier invité. Il s'appelle Alex Jacquelin et il a fondé avec son associé Thomas une start-up qui propose des vélos cargo. Elle s'appelle Pélican. Ils vont d'ailleurs exposer demain au salon de Villepinte. On le retrouve juste après un petit peu de musique. Pharrell Williams et Miley Cyrus. Allez, il est temps de retrouver notre quatrième et dernier invité. Je suis en ligne avec Alex Jacquelin. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de me recevoir ce soir.
Merci d'être avec nous. Le logo de votre start-up qui propose des vélos cargo a une tête de pélican, comme le nom de votre entreprise. Pourquoi avoir choisi Pélican ?
Oui, alors effectivement, c'est le cas. On a créé la société Pélican Cycle, du coup, il y a maintenant presque 2 ans.
D'accord.
Donc, on est une start-up qui développe et commercialise des vélos cargo uniquement dédiés aux professionnels.
D'accord.
Donc, en fait, il s'agit tout simplement de vélos ultra renforcés, très robustes, avec une grosse capacité de chargement, qui vont pouvoir aider les professionnels dans principalement la livraison du dernier kilomètre.
Ouais.
Et effectivement, pour nous, l'idée du pélican qui peut transporter beaucoup de poids dans sa bouche.
Dans sa grosse bouche.
Exactement. Et, qui dévient un peu de là.
Et pourquoi vous avez décidé de vous positionner ? Alors vous êtes avec votre associé, vous êtes un passionné de vélo, parce que sur votre site, il y a une photo devant le panneau du col du Tourmalet. Donc vous vous êtes dit que vous aviez envie de travailler dans le secteur du vélo, j'imagine. Alors pourquoi vous êtes positionné sur les professionnels et sur les vélos cargo ?
Effectivement, on est avec mon associé Thomas, passionné de vélo. C'était d'ailleurs à l'école d'ingénieur où on s'est rencontrés. Et puis, je pense que c'est peut-être à ce moment-là où une idée de travailler dans le vélo avait germé.
Ouais.
On a vu sur les dernières 3-4 dernières années, en fait, grâce au Covid, malgré tout, il y a eu des effets positifs, notamment sur le développement du vélo dans les centres-villes. Donc ça a eu énormément d'impact pour le transport et la mobilité douce.
Oui.
Et on s'est dit, écoutez, pourquoi pas faire profiter de ce nouveau moyen de transport, enfin de la redécouverte de ce moyen de transport, notamment grâce au vélo électrique, à l'essor du vélo électrique, pour le développer au cœur des centres-villes pour les professionnels. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de problématiques pour livrer en centre-ville, de plus en plus.
Oui, notamment avec les ZFE, ça doit pas... Du coup, avec les ZFE, les camions peuvent moins pénétrer dans les centres-villes, donc il y a vraiment une demande, j'imagine, de vélos cargo.
Exactement, en fait, les centres-villes sont de plus en plus fermés, sont de plus en plus contraints, alors pour beaucoup de bonnes raisons, hein, que ce soit pour la limitation de l'impact carbone, que ce soit pour la réduction du bruit ou la création de zones piétonnes, tous ces facteurs en fait font que livrer en centre-ville avec des gros camions ou des camionnettes électriques, ça devient de plus en plus compliqué pour les professionnels, alors que ce soit les artisans en intervention ou vraiment les métiers de livraison, les coursiers, etc. Ça devient vraiment très très compliqué.
Ouais.
Et une solution vélo-cargo en fait répond à tous ces avantages-là. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'études qui démontrent que dans des zones très denses, que ce soit les grandes villes, Paris, grosses capitales européennes ou même américaines, en fait, le vélo-cargo à distance équivalente permet de livrer plus de colis. Parce que on économise énormément sur le temps pour se garer, chercher une place, etc. Mmh.
Vous avez au début vous proposiez deux types de vélos cargo, je vais y arriver, de deux marques, mais vous avez créé votre propre produit, le Pélican Train, je vais y arriver, récemment, pour répondre à des besoins que vous avez vus chez vos clients. Je vais y arriver. Vous pouvez me parler un petit peu plus de ce Pélican Train?
Pas de soucis, on est en fin de soirée, je comprends. Alors effectivement, on a distribué au début, d'ailleurs on le fait toujours, des vélos cargo, que ce soit avec de la charge à l'avant. Alors pour vos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec les vélos cargo, il existe plusieurs types. Donc il y a celui qui permet, on va dire, presque d'emmener des enfants à l'école, avec une caisse à l'avant, qui va être assez rapide, assez agile.
Ouais.
Puis on va avoir des gros vélos triporteurs où là on va avoir plutôt du poids à l'arrière, une grosse caisse, une roue à l'avant et deux caisses à l'arrière. Et en fait, on s'est rendu compte que l'inconvénient, c'est-à-dire que dès qu'on voulait transporter le plus de place, le plus de volume, on se retrouvait avec des vélos qui étaient souvent très encombrants et pas forcément très agiles sur des pistes cyclables. Et or, les métiers de coursier, plus de poids, plus de volume, égale probablement des tournées plus rentables. Et donc, c'est un peu toujours la course à avoir le plus de poids, mais on est de plus en plus restreint pour accéder aux pistes cyclables, etc. On perd vraiment en praticité. Et donc notre idée, ça a été plutôt de combiner un vélo tout simple, vraiment un vélo électrique que n'importe qui peut pratiquer, peut faire, hyper agile, mais sur lequel on va venir y connecter une ou deux remorques électriques pour former comme un petit train logistique justement, d'où le nom de Pélican Train.
D'accord, et vous en avez combien maintenant de flotte de vélos Pélican ?
Alors le vélo Pélican est déjà rentré en production là sur le courant du mois de février, février-mars. Donc les premières unités sont livrées là à des clients en fait dans les...
Ah oui,
dans
donc c'est tout récent.
Exactement, c'est tout récent. On a gagné un prix sur le salon du SITL de Solutrans, pardon, au mois de fin novembre dernier, vraiment pour les premiers prototypes qui sont déjà d'ailleurs en test dans pas mal de communes et d'entreprises.
D'accord.
Et là, du coup, on s'apprête à livrer nos premières unités dans les semaines qui arrivent.
Et ben, génial. Et comment vous voyez l'avenir, du coup, vous, à quoi vous pensez sur les prochaines années ?
Bah écoutez, pour l'instant, le marché se développe extrêmement bien.
Oui, vous me disiez que le marché en France se développait pas mal là, ces dernières années, alors qu'historiquement, on était moins sur le vélo.
Exactement. En fait, je pense que le développement du vélo grand public a probablement beaucoup aidé. Malgré tout, alors ça a des grosses contraintes pour les livreurs et les transporteurs, mais le développement des ZFE également aide énormément, je pense. Demain, si on veut vraiment faciliter encore plus ce développement-là, je pense qu'il faudra aller encore davantage vers plus d'infrastructures, des oui. micro-hubs qui sont localisés au plus proche des centres-villes, en fait, tout simplement pour optimiser la rupture de charge. Hein, parce que quand on doit décharger, que ce soit un 36 tonnes ou un 20 mètres cubes, et charger deux ou trois vélos cargo, derrière, c'est beaucoup de temps qui est mobilisé, beaucoup d'équipes. Mmh. Et du coup, plus on arrivera à multiplier ces infrastructures, plus ça aidera en fait, et plus ça convaincra aussi de métiers et d'entreprises à se lancer dans ce marché-là. En fait.
Eh ben, merci beaucoup, Alex Jacquelin, de nous avoir présenté votre start-up, les Pélican Cycles. On vous retrouve donc dès demain, c'est ça, au Salon international du transport et de la logistique à Villepinte, au Parc des Expositions. Peut-être un dernier mot, une dédicace à passer avant qu'on se dise au revoir.
Non, bah écoutez, c'est très gentil pour l'invitation et puis j'invite chaleureusement tous vos auditeurs à passer nous voir du coup sur le stand P126. On leur offrira un café
voilà.
Des mots de vélo et puis un tour.
Bon bah super. Et bah venez prendre un café sur le stand B52, c'est ça, 56, pardon.
Non, P126.
Ok, rien à voir. Donc du début à la fin, j'aurais bafouillé P126.
C'est ça.
Bon, sur le stand P126 du Salon international du transport et de la logistique, le SITL, à Villepinte, au Parc des Expositions. Bah, bon courage pour ces 3 jours qui vont être, je pense, un petit peu intenses pour vous, j'imagine.
Oui, ça risque de choquer.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Et très bonne soirée à vous. Allez, 22h46, il est temps de reparler de vos conditions de circulation. L'infotrafic revient dans 30 secondes. Allez, c'est l'heure de donner le résultat du sondage. On vous demandait, est-ce que vous aimeriez être conducteur du dernier kilomètre ? Vous êtes 74% à répondre que non et 25% à répondre oui. Donc, victoire écrasante du non. J'ai reçu pas mal de messages assez négatifs sur le multimodal, mais aussi certains plutôt positifs. Alors, il y a Jimmy qui dit « Bonsoir, j'ai vécu il y a une vingtaine d'années à la fin de la CERNAM et de la CNC. » Deux filiales éloignées de la SNCF, c'était du vrai transport combiné, mais à l'époque, trop de politique avait des billes dans le routier. Bravo pour votre émission. Merci beaucoup, Jimmy. Il y a Mika, 66, qui dit « Bonsoir Florence, c'était deux copilotes. Pour le sujet du soir, je suis assez sceptique au sujet du multitransport. Je m'explique, je travaille chez JH Mesgen et on utilise la route et le train. L'inconvénient du train sur un trajet, par exemple, Château-Renard-Paris, c'est qu'il faut faire la ramasse à Château-Renard, charger la caisse au dépôt, emmener la caisse à la gare, qu'elle soit prise en compte, puis sur le train acheminée à Paris, descendue du train, remise sur un camion, ensuite livrée, ça fait perdre beaucoup de temps. Alors qu'en camion, par route, il n'y a pas toutes ces contraintes, sans compter les horaires de livraison qui sont difficilement en concordance avec les attentes des clients qui veulent être livrés de plus en plus vite. Je vous souhaite une très bonne émission. La bise au fada du bitume, signé Mika66. Oui, on nous expliquait tout à l'heure... Donc au niveau du fret ferroviaire, etc., il y a pas mal d'améliorations à faire, bien sûr. Et on le répète, ça ne remplacera jamais le transport routier, même si ça vous met un petit peu en colère, cette thématique du multimodal. Il y a Xavier qui dit ce qui pourrait être aussi marrant qu'efficace, ce serait que pendant 1 à 2 semaines, laisser tous les camions sans exception au dépôt. Oui, oui, tous les routiers en vacances en même temps et qu'ils se débrouillent avec leurs voitures, vélos, les trains et péniches. Je pense qu'il n'y a que comme ça que les gens vont comprendre et sortir de leur utopie. C'est un savant équilibre, je pense. Mais voilà, bon, en tout cas, il y a tous les avis ce soir, des avis effectivement assez négatifs, notamment l'avis de Ronflex qui dit pour agir au propos du dernier intervenant avant le vendeur de vélo, il esquive à la perfection les questions qui lui sont posées sans vouloir paraître insultant. Moi, je pense qu'ils sont à 10 000 lieues au-dessus de la réalité, qui n'ont pas conscience du métier de routier en zone longue. Pour rien au monde, je ne retournerai en courte distance, et ce même avec un couteau sous la gorge. On en a ras-le-bol d'entendre parler de décarbonation du transport par le train et le fluvial. Laissez-nous bosser et lâchez-nous avec la pseudo-écologie. Ce qu'il faudrait pour vraiment répondre aux soucis environnementaux du transport, ce sont les habitudes du consommateur, pas les méthodes de travail des routiers. Sur ce, je vais me coucher car j'ai entendu trop d'inepties pour ce soir. Les bons chiffres et la prudence, votre Ronflex qui est agacé d'entendre de telles aberrations au nom de l'écologie. Bon, bah, voilà, c'est votre avis, Ronflex. Et puis, il y a également Ben qui dit « Salut à tous, pour moi, le multimodal est une chose importante. Excellent pour le dernier kilomètre et ça empêche au moins des camions qui viennent en ville. Le seul défaut de ce type de transport, c'est que les personnes qui le font sont payées au ras des pâquerettes. Bon courage à tous les routiers qui roulent de nuit, les bons chiffres. » Je parle bien sûr des vélos cargo, nous dit Ben. Moi, j'arrive plus non plus à articuler. On sent que c'est la fin de l'émission. Oui, voilà. Alors, le transport multimodal, on le rappelle, ça ne va évidemment pas remplacer le transport routier de marchandises. C'est une manière de combiner et voilà, de faire aussi évoluer le métier. Mais j'ai bien entendu vos messages et j'espère quand même qu'on a réussi avec ces quatre invités à vous faire un tableau global des changements de la filière, comme nous le disait au début Laurence Gaborio, l'organisatrice du Salon international du transport et de la logistique. C'est un secteur qui est amené à énormément évoluer dans les prochaines années. Voilà, donc un secteur en pleine mutation. D'un côté, ça peut faire peur et d'un côté, ça peut être aussi excitant parce que de nouvelles innovations, de nouveaux enjeux aussi. Voilà, alors on va écouter un petit peu de musique, REM notamment, pour terminer cette heure avec de la bonne humeur. Shiny Happy People tout de suite. Léo, Marielle, est-ce que vous avez appris des choses, vous, ce soir, sur le transport multimodal?
Oui, et que ce n'était pas gagné, quelque part.
Voilà.
Pour de multiples raisons, c'est sûr, on a bien compris, mais en tout cas, c'était très intéressant. Voilà.
Bon, ça me fait plaisir. Vous, Léo, vous avez appris quelque chose ce soir?
Oui, évidemment.
Sur le transport et la logistique.
Alors déjà, je n'étais pas très, très bien informé, donc forcément, je suis une éponge ce soir et toutes les infos, je les avais pas en ma possession. Donc forcément, plein de choses sont à retenir de cette formidable émission.
Eh ben merci beaucoup Léo, merci à vous deux de m'avoir accompagné. On le rappelle donc, le Salon international du transport et de la logistique se tient à partir de demain au parc des expositions de Villepinte au nord de Paris. N'hésitez pas à y aller si vous posez des questions sur le multimodal, sur la décarbonation de la route, que ça vous agace, voilà, que vous avez envie d'assister peut-être à des tables rondes, des débats, c'est le moment de vous rendre au salon. N'hésitez pas, vous retrouvez tout le programme des conférences, des tables rondes sur le site internet du SITL, www.sitl, en minuscule, tout attaché, .eu, et vous aurez donc tout le programme de ces fameuses conférences. C'est donc la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Stéphanie Dionnet et Perrine Martin de m'avoir aidé à la préparer. Merci aussi à Sébastien Ponchelet, et oui, c'est Bamax qui m'a donné ses instructions avant de partir. Il revient dès jeudi pour une soirée playlist. Demain soir et mercredi soir, Thibaut Dinouel sera à vos côtés pour une émission demain avec Nicolas Grumel, le rédacteur en chef de France Route, et puis pour une soirée spéciale moto mercredi soir. Léo, Marielle, merci donc d'avoir été avec moi. Léo Labica, vous restez avec les automobilistes et les chauffeurs routiers du côté du Sud-Est et de la vallée du Rhône. Et puis Marielle Nougaret, vous restez du côté du Sud-Ouest. Très belle soirée à tous. Il est 23h.
Retrouvez Les Routiers sont toujours aussi sympas du lundi au jeudi 21h-23h sur Radio Vinci Autoroute.